Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Il est devenu un sujet d'actualité, une nécessité, un élément incontournable. Vous avez sûrement entendu parler des ODD, Objectifs de Développement Durable. D'ailleurs, 193 pays se sont fixés d'atteindre 17 objectifs d'ici 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est sur cette dynamique à la fois environnementale et économique. Notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Quel impact géopolitique, stratégique, économique et même social le développement durable a sur notre quotidien et sur l'évolution du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
Plus un jour ne passe sans que l'on entende parler de la fragilité de nos écosystèmes naturels et des répercussions excessives de l'activité économique essentiellement extractive sur ceux-ci. Cet état de fait n'est pas récent puisque le Club de Rome nous avertissait déjà en 1972 que la croissance économique infinie et le développement démographique rapide sont incompatibles avec les capacités de la planète bleue. Aujourd'hui, le constat est encore plus amer, malgré de nombreuses conférences historiques et d'innombrables promesses visant à rendre plus compatible l'activité économique avec les capacités de notre planète. Les progrès des trois dernières décennies en la matière sont vraisemblablement loin d'être à la hauteur de l'ampleur de ces défis civilisationnels. Au-delà du caractère environnemental, la notion donc de durabilité est à la fois perplexe et passionnante. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous nous intéressons donc à la notion de durabilité authentique, comme il a l'habitude lui également de le défendre et de le prôner. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cela implique? Quelques questions parmi tant d'autres que nous allons donc aborder avec notre invité, M. Ghani Kouli, fondateur du cabinet de design stratégique Humanio Impact. Bienvenue et merci de répondre à notre invitation, M. Kouli.
Merci beaucoup de l'invitation et bienvenue. Je suis ravi de m'entretenir avec vous ce matin.
Alors, sans plus tarder, la première question, qu'entendez-vous par durabilité authentique?
Effectivement, dans le mot durabilité authentique, on sous-entend qu'il y a une autre façon de voir la durabilité qui ne le serait pas. Là, c'est exactement de franc que je préfère répondre à votre question. La durabilité non authentique ou la non-durabilité authentique serait malheureusement celle qui est admise un petit peu dans le milieu des affaires comme étant celle qui vise plutôt la continuité des affaires, donc en anglais on dirait le business as usual, et qui prône une certaine primauté au profit et primauté en fait à l'aspect financier, en donnant l'impression que nous sommes en train de rendre nos organisations durables, mais en réalité il n'en est rien. Donc c'est ce qui a mené un groupe de chercheurs et aussi une agence onusienne qui a travaillé sur un projet pilote pendant 4 ans et qui a édité enfin un référentiel qui fait la délimitation entre ce qu'on pourrait qualifier de la non-durabilité ou une durabilité non authentique versus une durabilité authentique qui est mise à disposition des organisations afin de voir le vrai du faux, afin de voir l'ambition d'impact réel versus ce qui pourrait être une illusion d'impact.
Et donc, dans cet état et dans ce cas de figure également, comment la notion de durabilité peut-elle donc nous aider à mieux comprendre les défis socio-environnementaux qui se profilent à l'horizon?
Vous l'avez dit dans votre laïus en introduction, je pense que ce n'est pas d'aujourd'hui que les limites planétaires et les fondements sociaux sont fragilisés. Et à juste titre, nous avons la responsabilité sociétale qui a été émergente depuis, je dirais, peut-être les 20-25 dernières années. Maintenant, la crise climatique, les changements climatiques, mais les autres limites planétaires aussi qui ont été franchies, nous mettent une pression comme humains, comme milieu des affaires en particulier, à relever des défis qui sont interreliés. C'est faux de croire que les enjeux sociaux peuvent être séparés des enjeux environnementaux. Prouvez que les populations les plus vulnérables au changement climatique sont malheureusement celles qui sont déjà fragilisées par le tissu économique et qui n'ont pas accès, parfois même à des besoins tout à fait essentiels et primaires, dans certains cas, qui n'accèdent pas nécessairement à une dignité humaine ou du moins à prendre leur part au niveau du développement dit économique ou dit financier. Donc, il y a vraiment une interrelation qu'il faut prendre en compte, et c'est faux de considérer tout ça comme étant des silos auxquels il faudrait s'attaquer séparément. Ce qui nous amène à ce que la notion de durabilité nous prône, c'est une pensée systémique, c'est une pensée système, c'est une pensée au niveau des écosystèmes naturels et humains, qu'il va falloir transcender notre style de management au style de leadership, chose qui aujourd'hui est assez prônée, assez formatée, j'allais dire, au niveau des business schools, au niveau de la façon dont on pense même le management, on le pense essentiellement pour une profitabilité à titre de finalité. Or, il va falloir transcender cela pour voir les choses de façon systémique et non pas en silo.
Et donc, dans le cadre pratique, pour en venir, donc, bien entendu, dans le cadre pratique, y a-t-il réellement donc, un cadre légitime d'évaluation ou de mesure d'une pratique dite durable, tant sur le plan social qu'environnemental ?
La bonne nouvelle, c'est oui. Donc, effectivement, elle est émergente, cette tendance-là. Je vous ai mentionné il y a quelques minutes un projet pilote qui a été mené à travers un think tank auquel je suis affilié qui s'appelle R3.0. Vos auditeurs peuvent le consulter. L'institution onusienne, c'est le United Nations Research Institute for Social Development qui a mené une recherche qui a fini par un livrable concret, gratuit, open source, qui peut être consulté en ligne, et qui s'appelle le SDPI, donc c'est le Sustainable Development Performance Indicators. Ce sont les indicateurs de performance de développement durable, mais au sens authentique du terme, ils permettent exactement, en réponse à votre question, de façon très pratico-pratique, d'évaluer, de mesurer sa performance en matière de développement durable sur des indicateurs qui, eux, ont été pensés pour faire la distinction de ce qui n'est pas durable versus ce qui véritablement nous amène vers un horizon de durabilité. Je vous en donne un exemple.
Allez-y.
Prenons l'eau, par exemple. Si une organisation a une interaction directe ou indirecte avec la ressource hydrique, donc l'eau, vous serez d'accord avec moi qu'on ne peut pas seulement faire une réédition de compte sur la quantité de mètres cubes d'eau qu'une organisation consomme d'année en année.
Tout à fait.
Parce que ceci ne nous dit en rien, même si elle a diminué sa consommation d'année en année, ça ne nous dit en rien est-ce qu'elle est respectueuse, cette consommation-là, des limites planétaires ou pas. Par contre, et c'est ce que suggère exactement ce référentiel et la plateforme en ligne qui permet de le calculer, si vous divisez votre performance actuelle sur ce qui est normatif, à savoir la quantité d'eau ou le budget d'eau que vous êtes censé consommer au maximum. Et à ce moment-là, la vérification pourrait se faire par l'opinion publique et les acteurs intéressés en disant est-ce que vous êtes en bas du seuil de durabilité ou vous dépassez ce seuil de durabilité-là. Vous voyez clairement, juste avec cet exemple concret, qu'on peut faire la distinction entre des organisations véritablement durables et celles qui, avec toutes les bonnes intentions, sont plutôt dans une illusion de durabilité.
Et pour revenir à cette durabilité justement authentique que vous prenez, comment peut-elle donc concrètement répondre, mais par ailleurs, avant de venir à cela, comme vous l'avez souligné dans une d'ailleurs de vos chroniques, les analyses récentes démontrent de manière convaincante que l'aggravation de la crise climatique actuelle entraînera des conséquences néfastes sur notre capacité à atteindre tous les objectifs de développement durable établis par les États membres des Nations Unies en 2015, et c'est-à-dire qu'il faut repenser nos modèles de référence pour l'atteinte de ces durabilités.
Complètement. Malheureusement, le numéro 1 des Nations Unies confirme lui-même l'été dernier que la plupart, sinon la majorité des indicateurs de développement durable, soit ils ne sont pas atteints, soit ils ne le seraient même pas dans l'horizon 2030. Donc, ça serait un peu illusoire de continuer à croire que nous allons atteindre ces objectifs-là. D'abord, faut-il le rappeler, ce sont des objectifs de nation à nation, mais qui sont extrêmement éloignés de la réalité des entreprises, encore moins peut-être dans une dimension, dans un contexte africain. On y revient si vous me donnez l'occasion tout à l'heure.
Allez-y.
Mais pour répondre à votre question, clairement, le référentiel de la façon que les modèles d'affaires ou les modèles économiques, les business models des organisations sont faits aujourd'hui, doit absolument être renouvelé, doit être absolument, d'une part, faire en sorte que les opérations des activités des entreprises soit intégratrice de la dimension de responsabilité sociale. Mmh. Mais ça, je pense, c'est déjà un impératif sur lequel la bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné beaucoup en connaissance, en pratique. Donc, il y a de plus en plus de RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, qui est intégrée. Ça ne suffit pas. Et c'est ça le deuxième pan de réponse à votre question. Il va falloir non seulement minimiser les impacts négatifs, donc c'est à peu près ça l'objectif essentiel de la RSE, vu l'impératif que nous avons devant nous en termes d'urgence et de crise climatique, nous devons aussi avoir à générer, voire régénérer les milieux dans lesquels nous faisons ces activités-là. C'est ce qu'on pourrait appeler une économie régénérative, mmh. ou régénératrice, c'est cela. Mmh. Donc, il faut dépasser le cadre de la RSE comme étant une finalité en soi. Malheureusement, ça ne suffira plus. Mmh. Même les cadres de plan de développement durable, comme je vous l'ai mentionné, ils ne sont plus aussi ambitieux que ce que ça devrait être. Mmh. Et donc, il va falloir repenser nos modèles économiques. C'est une chose de vouloir atténuer les impacts négatifs, c'en est une autre d'intégrer l'impact positif net au sein même de son modèle d'affaires. Je prends également qu'en parallèle et pour arriver à une durabilité authentique, il va falloir que les modèles d'affaires, que les business models soient complètement repensés, qu'ils soient impact by design et non pas de façon accessoire.
Et justement, pour également revenir à ces durabilités authentiques que vous prenez, comment peut-elle concrètement répondre aux véritables exigences économiques et sociales et environnementales, mais aussi pour faire, ne pas faire dans d'une part de mesure, également concernant le cas de l'Afrique de manière spécifique.
Mmh. Intéressant. Écoutez, les facteurs dits ESG, donc économie, écologie plutôt sociale et de gouvernance, ou la dimension triptyque un petit peu qu'on pourrait qualifier par les spécialistes de triple bottom line, donc ne pas juste avoir la finance, mais aussi avoir la dimension sociale et environnementale. Malheureusement, il faut avoir un référentiel au niveau du public, au niveau des praticiens, au niveau de la réglementation, pour distinguer le vrai du faux. Distinguer aussi la réglementation et sa conformité, qui est déjà en soi une bonne chose, mais pas suffisante, versus le leadership d'impact qui nous mène vers une ambition qui régénérait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les écosystèmes dans lesquels nous naviguons. Donc cette durabilité authentique, elle concrètement, elle peut répondre à la triple vision qui serait à la fois financièrement viable, et on n'est pas en train de dire on est contre la vertu ou on est contre l'aspect capital ou financier de la chose, c'est juste qu'il ne peut pas continuer à être au détriment de la dimension sociale et environnementale. Donc elle viendrait un peu rééquilibrer les choses. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'encore plus ambitieux. C'est faux de considérer que la finance ou l'économie, c'est l'égal du social et c'est l'égal de l'environnemental. C'est absolument faux. Parce que physiquement, au niveau des limites planétaires et des fondements sociaux, c'est la biosphère et sa vivabilité qui crée les conditions de survie humaine. Mmh. C'est l'humanité dans son bien-être et dans son mieux-être qui est la pierre angulaire de la création de ce qu'on pourrait qualifier de l'économie. Et c'est l'économie avec l'ensemble de ces facteurs qui font en sorte qu'il puisse avoir quelque chose qui s'appelle la finance. Donc, déformant un petit peu ce regard idyllique que nous avions auparavant, qui est les fameux trois cercles qu'on a envie de voir, la finance, l'économie, le social et l'environnemental comme étant des sphères égales. Il n'y a absolument pas plus faux que ça. Donc je nous invite aussi à regarder les choses dans leur réalité. La finance n'est qu'un élément très très minime de l'économie. L'économie ne peut exister sans l'humanité qui est le talent, qui est le consommateur, qui est aussi le génie créatif innovant. Et cette humanité, ce n'est qu'une espèce parmi d'autres et elle ne peut exister à l'intérieur d'une terre dans ses limites sans fini.
Et elle ne peut exister également, cette durabilité, sans des solutions authentiques, comme vous venez de le dire. Plutôt, M. Ghani Colli, encore une fois, merci. Je rappelle aussi que vous êtes fondateur du cabinet de design stratégique Humanio Impact. Et avec vous, nous revenions sur la notion de durabilité authentique. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci également à vous, chers amis auditeurs et aussi chers amis abonnés de votre émission Durabilité. Dans la durabilité de votre confiance renouvelée, on se donne rendez-vous pour le prochain numéro.